Vous écoutez
Montréal par la racine. Dans l'esprit de notre série de chroniques sur la vie du sol, et j'accueille en studio Sylvain Pouzet, qui est nouveau collaborateur à l'émission Montréal par la racine. Sylvain, tu es urbaniste et environnementaliste, également permaculteur et présentement en formation justement sur la vie du sol. Donc bonjour et bienvenue à l'émission.
Bonjour Gabrielle, bonjour à toute l'équipe et heureux d'être parmi vous.
Alors Sylvain, tu vas faire régulièrement des chroniques, notamment sur des documentaires parce que c'est un de tes dada.
C'est ça, et peut-être même des interviews.
Peut-être même avec des réalisateurs de documentaires.
Peut-être même, oui.
Et tu nous présentes et t'analyses aujourd'hui justement un documentaire qui remonte à 2012 et qui nous parle de l'après Fukushima et de son impact sur la vie des agriculteurs d'une région située à une trentaine de kilomètres de la zone interdite et des solutions très intéressantes aussi qu'on a mis de l'avant.
Tout à fait. Je vous propose en effet l'analyse de Terre souillée, paysan à Fukushima. C'est un documentaire de Marie-Monique Robin, Roland Théron et Françoise Boulègue qui dure seulement 28 minutes. Marie-Monique Robin, on la connaît, c'est une journaliste d'investigation française. Elle a réalisé des films assez connus, Le Monde selon Monsanto en 2008, Les Moissons du Futur en 2012 et plus récemment Sacrée Croissance en 2014. Je vous en reparlerai probablement lors d'une autre émission. Elle travaille beaucoup avec la chaîne Arte qui l'a produit. Alors au niveau des sources de visionnage, je n'ai pas trouvé le documentaire sur arte.tv ni sur la boutique à Arte ni sur le site M2R, la maison de production de Marie-Monique Robin. Donc je vous donnerai les liens dès que elle répondra à mon courriel dans lequel je lui demandais où trouver officiellement le documentaire. Donc le documentaire traite des impacts de la catastrophe de Fukushima du 11 mars 2011 sur les terres agricoles de la région de Nihonmatsu et sur les mutations imposées, excusez du mot, du mode de vie de trois familles de paysans.
On t'excuse ton japonais.
Il y en aura d'autres. Le documentaire pose la question de comment permettre aux paysans de continuer de nourrir leurs concitoyens et de répondre à cette mission parfois séculaire et prise très sérieusement par les agriculteurs bio, dans un site rendu impropre à la culture, à première vue seulement.
Et peut-être qu'il vaut bien, il est bon de rappeler, pardon, que le Japon, c'est le pays où le concept des paniers bio livrés à domicile, qu'on appelle, encore une fois, excusez mon japonais, le taikai, je crois, a vu le jour dans les années 60.
Oui, et où l'un des maîtres de l'agroécologie, Masanobu Fukuoka, a développé son savoir et écrit son fameux livre « La révolution d'un seul brin de paille », une référence internationale.
Ici, on revient à nos trois familles d'agriculteurs qui pratiquent donc l'agriculture biologique depuis plus de 30 ans. Qu'est-ce qu'on fait dans un site aussi pollué quand on se bat contre le chimique depuis une vie et qui s'est détruit par une telle catastrophe?
Tout à fait. Une pollution invisible, nuisible pour eux, pour leur culture, qui mine la confiance des consommateurs et qui crée quasiment une psychose liée à l'alimentation au niveau local. Eh bien, trois réponses à cela. À chaque famille, sa réponse. Celle de migrer vers une autre préfecture, abandonnant le travail de 13 générations d'agriculteurs à l'âge de 70 ans. Énorme défi pour Kisaburo Tano et sa femme Midori de tout recommencer, de se déraciner quand on a un lien si fort avec la terre. Encore plus difficile quand les autorités ordonnent la destruction de la récolte annuelle. Certains ne s'en remettent pas, décident de partir pour toujours, comme c'est le triste cas pour Shisae Tarukawa, dont la femme veuve et le fils vont tenter de s'en sortir en continuant de faire fonctionner la ferme familiale. Ou alors le choix de rester, de tenter de s'adapter en comprenant les changements qui se sont opérés dans le milieu naturel. Heureusement pour Seiju Sugeno et sa fille Mizuo, un agronome de l'université de Niigata, Masanori Nonaka, tente d'aider au mieux les agriculteurs dans la région. Collaborant étroitement avec eux, il multiplie les expériences pour décontaminer leur sol. Et c'est de cet exemple dont je vous parlerai le plus aujourd'hui.
Et est-ce qu'on peut vraiment parler de décontamination dans un cas comme celui-ci?
Oui, en tout cas, c'est ce qu'espère réussir à faire Mizuo, qui à l'âge de 25 ans, veut transmettre sa terre plus saine à la génération future qui, comme elle, reprendra probablement la ferme. Selon elle, il faudra au minimum 30 ans de travail pour diminuer significativement le taux de césium du sol. Ici, le taux moyen de radioactivité naturelle peut être dépassé plus de 8 fois, et les normes du ministère de l'Agriculture pour la consommation humaine sont de plus en plus contraignantes. Pour bien faire, il faut donc un suivi de la contamination de l'eau, des sols et des récoltes et tester scientifiquement des techniques de décontamination.
Et à quelles techniques on fait référence justement ?
Alors plusieurs dans le documentaire. Il y a d'abord la zéolite, une roche microporeuse qui fixe la radioactivité contenue dans l'eau et qui est de plus en plus contaminée, elle est de plus en plus contaminée cette eau avec les pluies et le lessivage de certains sols. Il y a aussi certaines plantes, comme le colza, qui pourraient être utilisées dans l'absorption, mais c'est pas très clair dans le documentaire, donc j'ai un doute sur le rôle du colza. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est l'impact de l'apport du compost. Après l'avoir intégré au sol et après 3 labours l'année précédente, la radioactivité du sol a diminué de plus de 2 fois. Et puis, il y a toujours un écart, rappelons-le, entre les polluants contenus dans le sol et leur absorption par les plantes qui y poussent. Et là, le compost et la biodiversité du sol jouent pour beaucoup. Donc le mode de culture avec ou sans pesticides participe grandement à l'absorption ou pas du césium.
Et est-ce qu'on nous donne un exemple concret de cet impact de la matière organique dans le documentaire?
Alors oui, avec l'ingénieur agronome, il donne un exemple, le riz bio, qui fixe au minimum 2 fois moins le césium que le riz conventionnel, et c'est ce qu'on cherche. Normalement, l'absorption de césium par les cultures est considérée comme étant 10% du taux de contamination du sol. Et là, dans un test effectué sur la ferme Sugeno, le riz dans un site largement contaminé, plus que la moyenne même, par la radioactivité, cultivé dans un sol riche en compost et uniquement avec des engrais bio, n'a absorbé que moins de 1% du taux de contamination du sol, contre 17% dans un site conventionnel. On est largement en deçà des normes de santé publique, ce qui facilite la vente des aliments. Bingo!
Donc on parvient grâce à la matière organique à cultiver du bio dans un sol qui est à la base contaminé. C'est quand même assez impressionnant.
Oui, tout à fait. C'est le message clair que passe l'agronome. La découverte des dernières années, c'est que la matière organique, le compost, l'argile et le potassium ont tous un rôle dans ce système de décontamination du césium, ou plutôt dans le ralentissement de son absorption dans les cultures.
Et est-ce qu'on peut faire un lien avec une situation, peut-être pas similaire, mais une situation à laquelle on pourrait faire référence au Québec?
Alors, selon moi, oui. La tragédie sociale et environnementale du lac Mégantic est encore dans tous les esprits. Même si la pollution est d'un autre ordre, des méthodes de décontamination biologique ont été utilisées pour les 5 millions de litres de pétrole brut déversés au centre-ville de la municipalité. La semaine dernière, les médias annonçaient que 280 000 tonnes métriques de terre ont été excavées et remplacées dans le centre-ville, ce qui était prévu pour la fin d'année. Ils sont dans les temps, elles seront ensuite traitées sur un site approprié dans la ville même. Selon moi, on n'est là qu'au début d'une nouvelle ère de la décontamination. Des chercheurs pionniers comme Paul Stamets chantent les louanges des champignons et de leur capacité à déstructurer les molécules d'hydrocarbures et à régler bien des problèmes environnementaux. Un petit lien sur le site d'Arte nous présente plein de techniques de micro-remédiation.
Et Johanna, d'ailleurs, est en train de déjà mettre tout ça sur notre page Facebook. Et à Montréal, est-ce que tu y vois des applications également?
Ben, concernant les terres urbaines, on peut commencer à penser à des recherches sérieuses dans le rôle joué par la biodiversité urbaine, notamment son intérêt dans les sols, qui permettrait de traiter sans excavation des sites pollués, comme il y en a beaucoup à Montréal. C'est en effet un frein trop important à l'implantation de sites de culture vis-à-vis des pouvoirs publics, qui cherchent à protéger la population et indirectement à se protéger, parfois exagérément. On peut rêver, mais les solutions arriveront peut-être beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Mettons de la vie plus que de la technologie.
Merci beaucoup, Sylvain, pour cette découverte. Alors, on rappelle qu'on joindra éventuellement là, sur la page Facebook de l'émission où trouver le lien.
Tout à fait.
S'il est disponible pour
s'il
écouter
est disponible,
ce documentaire.
J'espère trouver ça.
Merci beaucoup pour cette belle découverte.
Merci.
Ce segment fait partie d'une série radiophonique produite dans le cadre de l'Année internationale des sols. Il a bénéficié du soutien de l'Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires en collaboration avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture qui célèbre son 70e anniversaire en 2015.